Philosophie première par le père Philippe Saint-Joseph, le 6 décembre 84.
Ici. Et vous savez qu'il y a les quelques étudiants qui préparent leur licence en liaison avec Lyon 3. Après avoir étudié un sujet donné, ils se réunissent. Puis l'un présente tel ou tel, présente ce qui lui semble être le plus important, et les autres peuvent discuter là-dessus. Alors certains ont demandé si ce ne serait pas l'occasion, pour ceux qui veulent, d'assister à ce petit débat, cette petite joute, n'est-ce pas, entre philosophes, comme il n'y a pas de questions disputées actuellement. Ce serait peut-être bon, mais il faut que ce soit un mode qui soit très net, et c'est le frère Benoît qui organisera ça la semaine prochaine. Comme la semaine prochaine il y aura un peu plus de temps, ce sera peut-être pas mauvais. Et puis que c'est sur un sujet qui intéresse tout le monde, puisque ce sera Karl Marx, je présume, ça intéressera tout le monde. Ceux qui veulent assister, c'est très libre, c'est très libre. Évidemment, ne prennent la parole que ceux qui préparent la licence. Les autres, s'il reste du temps, et que le frère Benoît juge que c'est bien, alors ils poseront leurs questions par écrit pendant la dispute, et puis on verra s'il y a des questions importantes et intéressantes. Vous voyez ? Et c'est lui qui fera le filtrage. Mais en fond, ce sera, parce que ça ne dure pas, ça durera une heure et demie, si vous voulez, mais pas plus. Et je crois que ça peut être intéressant. Parce que comme ça, tout le monde participe, ceux qui veulent participer. Mais c'est très libre. Et ça, c'est pour répondre à la demande de certains. On ne fera pas nécessairement ça tout. Chaque fois, on verra un peu comment ça peut apporter quelque chose de plus. Étant donné que, comme cours sur l'histoire de la philosophie, vous n'en avez pas énormément. Notre cher Prosper, qui devrait venir, ne vient pas énormément. Et ça fait que c'est peut-être pas mauvais de réfléchir ensemble sur ces questions. La dernière fois, je vous rappelais dans les catégories d'Aristote. Alors, je vous relis ce texte d'Aristote, étant donné l'importance de ce texte, qui a joué un rôle très important. C'est un texte capital. Donc, dans les catégories 6, 7, j'ai lu la dernière fois certains passages. Je vous relis pas tout le texte des catégories, mais pour que vous voyez mieux. On appelle relative ces choses. Alors, c'est traduction tricot. La traduction tricot, vous savez bien, il y a toujours un petit bémol. On appelle relative ces choses dont tout l'être consiste en ce qu'elles sont dites, dépendent d'autres choses. Ou se rapporter de quelque autre façon à autre chose. Par exemple, le plus grand est ce dont tout l'être consiste à être dit d'autre chose. Car c'est de quelque chose qu'il est dit plus grand. Et le double est ce dont tout l'être est d'être dit d'autre chose. Car c'est de quelque chose qu'il est dit le double. Ce que nous avions vu, facile à comprendre. Alors, sont aussi des relatifs des termes tels que état, exis, habitus, disposition, sensation, science, position. Donc, tout de suite, deux catégories de relatifs. Le relatif pris dans toute sa pureté, le double. Le relatif qui implique quelque chose d'une détermination, mais une détermination ordonnée à autre chose. Ce qu'on appellera d'un terme scolastique, il faut connaître le terme relation prédicamentale et relation transcendantale. Très mauvais langage. Il faut le connaître pour pouvoir le supprimer. N'est-ce pas ? Donc, relation prédicamentale, relation transcendantale. Relation prédicamentale, double. Double est une relation prédicamentale, parce que double fait relatif à autre chose. Double de quelqu'un d'autre. On est double de quelqu'un d'autre. Relation transcendantale, c'est par exemple la puissance, l'habitus, l'exis, l'habitus, qui est relatif à son objet. Il est relatif à son objet. L'habitus de philosophie première, que vous avez tous, est relatif à ce qui est en tant qu'être. L'habitus, l'art poétique est relatif à la parole. Et ainsi de suite. Vous voyez que l'habitus n'implique pas uniquement une relation, ça implique une détermination. Et c'est en ce sens-là qu'on va l'appeler relation transcendantale. Parce qu'il implique une détermination qui est ou une qualité, ou une puissance, ou une action. Donc on l'appelle transcendantal parce qu'il dépasse les prédicaments. Donc le terme transcendantal, là, prend une signification très particulière qu'on a dit ensuite scotiste. Ça vous intéresse beaucoup. C'est le gros livre de Krempel. Il a mis 9 ans pour l'écrire. Donc il a dit au début de sa préface que c'était un livre parfait, parce qu'il y avait une gestation de 9 ans. Donc, et c'est ce livre de Krempel sur le relatif. Il a rassemblé tout ce que saint Thomas avait dit sur le point de vue relatif, pour montrer que cette distinction relation prédicamentale et relation transcendantale n'était pas thomiste, mais qu'elle était scotiste. Alors ça vaut la peine d'écrire un gros bouquin. C'est tout à fait la scolastique, ça. C'est tout à fait. Alors après, il y a quelqu'un qui répond pour montrer que ce qu'il a dit n'est pas juste, et il y a une réponse ensuite, et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien de ce dont on parle. Mais on parle en face de quelqu'un d'autre pour supprimer une opinion et mettre à la place cette opinion une autre opinion. Alors, je le dis parce que c'est une question connue, relation prédicamentale, relation transcendantale. La relation prédicamentale, c'est la relation à l'état pur, le double. La relation transcendantale, c'est une détermination ordonnée autre chose. C'est une détermination qui ne peut se comprendre qu'en fonction. Je ne peux comprendre l'habitus que si je vois on est l'habitus de quelque chose. Donc c'est une détermination qui implique un regard vers le sujet, mais cette détermination ne peut se préciser pleinement que si je vois la relation, le terme relatif vers lequel il est. En effet, cette relation prédicamentale et transcendantale n'est pas dans saint Thomas. C'est un scotiste, dont j'ai oublié le nom, mais facile, il suffit de regarder dans le Krempel, puisque toute sa thèse est là-dessus. C'est un scotiste qu'on a pris pour un thomiste, qui a fait cette distinction-là. Et alors vous voyez sur quoi ça se fonde, hein. Alors c'est saint Thomas dira relation secundum esse et relation secundum dici. Ça c'est une distinction de saint Thomas qui s'appuie directement sur Aristote et sur les catégories. Relation secundum esse, c'est la relation prédicamentale. Relation secundum dici, c'est la relation transcendantale. Secundum esse, vous voyez bien, c'est selon l'être et selon le dire, hein, secundum dici. Donc vous voyez bien cette chose qu'Aristote fait tout de suite. Donc il regarde la relation pure, le double. Il regarde la relation complexe, on pourrait dire ça, relation simple et relation complexe, c'est peut-être ce qui traduirait le mieux. Aussi, sont aussi des relatifs des termes tels que état, exis, disposition, sensation, science, position. Pour tous ces termes, leur être consiste en ce qu'ils sont dits, oui, secundum dici, en ce qu'ils sont dits, dépend d'autre chose et rien d'autre. Ainsi, l'état, l'exis, est dit exis de quelque chose. La science, science de quelque chose. La position, position de quelque chose. Et ainsi de suite. On est dit de quelque chose. On est dit, secundum dici. On est dit de quelque chose. J'appelle, hein, J'ajoute que le coucher, la station droite ou assise sont des positions déterminées. Et la position elle-même est un relatif. Par contre, être couché, être debout, être assis ne sont pas en eux-mêmes des positions, mais ne font que tirer leur nom comme paronyme des positions que nous venons d'énumérer. Mais c'est la position de quelqu'un. Alors ensuite, Aristote donne les différences que je vous ai vues avec vous hier. C'est pas directement ce qui nous intéresse ici, mais ce qui est intéressant, la simultanéité. Alors c'est la question qui vient après dans les catégories. Donc numéro des catégories numéro 8 à 17. Vous savez bien, toujours l'énumération de Bacon. Quand on cite pour Aristote une catégorie 8 à ou 17. Ça correspond à l'édition de Bacon. L'édition de Bacon est la grande édition des textes d'Aristote de Berlin. Ça, il faut le savoir. C'est une chose tout à fait. Alors, c'est 8A, c'est tout simplement la pagination. A, B, c'est sur deux colonnes. C'est A et B. 17, c'est verset. Alors, vous énumérez tout le temps comme ça. Quand on énumère Aristote, on doit énumérer de cette manière-là. Autrement, on énumère mal. Et même, il faut mettre catégorie 7. 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, La question se pose de savoir s'il est vrai qu'aucune substance ne peut faire partie des relatifs, comme cela semble bien être le cas, ou si on peut y ranger certaines substances secondes. Vous avez dit, ça c'est directement l'attaque par rapport à Platon. Pour les substances premières, il est vrai qu'elles ne sont pas des relatifs, car ni les substances entières, ni leurs parties ne peuvent être relatives. On ne dit pas d'un homme qu'il est un homme de quelque chose, sauf quand il est un fonctionnaire. Mais autrement, on ne le dit pas. Il n'est pas un homme de quelque chose, ni d'un bœuf. Un bœuf de quelque chose. Oui, on dit le bœuf de tel propriétaire, vous voyez. Alors à ce moment-là, on voit l'appartenance. Mais ce n'est plus l'animal qu'on regarde, c'est le droit de propriété. Il en est de même pour les parties. Une main n'est pas dite une main de quelqu'un, mais la main de quelqu'un, et une tête n'est pas dite une tête de quelqu'un, mais la tête de quelqu'un. Vous voyez ? Alors on voit très bien qu'il est ce qu'Aristote veut dire, c'est que de fait, il n'y a pas de relatif par rapport à la substance. C'est seulement pour certaines substances secondes que la question peut se poser. Par exemple, la tête est dite la tête, et ainsi de suite, il développe ce point de vue-là. De tout ceci, il résulte évidemment, quand on connaît un relatif d'une façon déterminée, on connaîtra aussi d'une façon déterminée ce à quoi il est relatif. Cela est aussi évident en soi, car si on sait de telles choses particulières, que telle chose particulière est un relatif, étant donné que l'être des relatifs n'est rien d'autre que d'être en relation. C'est ça qui est intéressant. Que l'être, vous voyez, le souci de préciser qu'est-ce que c'est que l'être du relatif. L'être du relatif n'est rien d'autre que d'être en relation. On connaît aussi ce à quoi il est relatif. Si l'être de la relation est d'être tout entier proche, connaître l'autre, c'est le connaître. C'est ce qu'on dira couramment, vous voyez. L'amitié est une relation. Bon, je connais l'ami, donc je connais l'autre. Ah, je connais ton ami, donc je te connais. Oui. C'est vrai dans la mesure où l'homme se ramène à l'ami. Mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que de fait, l'amitié ne définit pas tout l'homme. Alors on peut avoir des surprises. Mais au fond, il y a quelque chose de juste. C'est pour ça que je vous le rappelle. Donc, vous voyez, lisez, je vous l'ai dit, essayez de lire les catégories, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, il faut entrer dans les catégories d'Aristote, et spécialement pour la question du relatif. Donc, nous avons essayé de préciser ce que représente cette étude face à Platon. Alors, voyons maintenant, toujours dans Aristote, pour essayer de préciser qu'est-ce que c'est que la relation chez Aristote. Au livre Delta de la philosophie première, le livre Delta de la métaphysique, vous savez bien, c'est le livre Delta de la métaphysique, c'est le livre, c'est le petit lexique, c'est le lexique. C'est-à-dire, c'est là où on voit tous les termes. Aristote annonce que l'être par soi se dit en autant de sens qu'il y a de catégories, puisque le langage exprime la manière dont nous saisissons la réalité. Il énumère la qualité, la quantité, le relatif, le prosti. Mais son analyse métaphysique se limitera à la détermination première, l'ousia. Aristote nomme qu'au point de vue métaphysique, il y a l'étude du prosti. Bon, Aristote ne l'étudie pas beaucoup. Cependant, s'il n'analyse pas systématiquement le relatif en métaphysique, vous n'avez pas une étude du relatif. Alors, on peut le faire. Parce que le relatif au point de vue de l'être, qu'est-ce que c'est? Aristote s'est posé la question dans les catégories. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que le tiesti, l'être du relatif. Cependant, s'il n'analyse pas systématiquement le relatif comme il l'analyse l'ousia, l'ousia, il l'analyse au livre Zeta, hein, donc un gros morceau, on peut relever chez lui suffisamment d'affirmations pour pouvoir préciser sa pensée concernant ce qu'est le relatif. Déjà dans les topiques. Les topiques, c'est un livre proprement c'est un livre de logique, topique. C'est le livre des lieux, topos, c'est le lieu. Donc, déjà dans les topiques, Aristote disait: l'ousia de tout relatif est d'être orienté vers un autre. Très joli comme expression. C'est pour ça que je vous donne ce lieu. L'ousia de tout relatif. Donc, la substance de tout relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'être. Puisque la substance, c'est ce qu'il y a de principal dans l'être. Donc, l'être de tout relatif, la substance de tout relatif est d'être orienté vers un autre. Puisque pour chacun des relatifs, tout ce qu'il a d'être est exactement ce qui se rapporte de quelque façon à quelque autre chose. Donc vous avez là, dans les topiques, topic 6, le sixième livre des topiques, chapitre 8, 146b4. Si Aristote parle ici de l'ousia du relatif, c'est simplement pour exprimer sa quidité. Ce qu'il est, son être. En réalité, comme le précise la métaphysique, l'ousia ne peut être élément du relatif, ni le relatif élément de l'ousia, car il n'y a pas de principe commun à l'ousia et au relatif. Il n'y a pas de principe commun. Entre le relatif et l'ousia, il y a une division absolue, parfaite. Donc il n'y a pas de principe commun à l'ousia et relatif. Et de toutes les déterminations de l'être, le prosti est celle qui est le moins une nature. C'est ce que dit Aristote ici. Alors ça, c'est un texte intéressant. Le prosti est celle qui est le moins une nature ou substance. Car relativement à l'être, elle est même postérieure à la qualité et à la quantité. Elle n'est même pas une détermination de ses déterminations. Elle est seulement un mode de la quantité, un pathos de la quantité et de la qualité. Donc, elle ne peut être que cela. Aristote dit ceci dans Métaphysique, le livre Nu, N, 1, 1088a, 23-24. Donc, on voit bien ce qu'il veut dire, c'est que le relatif comme tel n'est qu'un pathos. Un mode de la qualité et de la quantité. Autrement dit, il veut montrer que le point de vue du relatif est quelque chose, quand on veut saisir, qu'est-ce que c'est que l'être du relatif ? Il nous échappe. Saisissez la structure du relatif. Quelle est la structure ? Quelle est l'ousia ? Quelle est la cuidité du relatif ? C'est quelque chose de très difficile à saisir. Et il montre bien que c'est quelque chose qui... C'est pour ça qu'il ne le traite pas en métaphysique. C'est bien dommage, ça aurait été très intéressant. Autrement dit, l'être du relatif implique toujours une autre nature qui lui sert de fondement. Il est si débile qu'il ne peut exister par lui-même. Ça, c'est le propre du relatif. C'est un être qui ne peut pas se tenir par lui-même. Il est débile. C'est ça, la débilité. On est débile quand on ne se tient pas par soi-même. Débile du côté biologique, débile du côté mental. Quand on dit un être débile du côté mental, c'est qu'il a toujours besoin d'une canne. Il ne peut pas se tenir tout seul. Toujours besoin d'une autorité. Il a besoin de s'appuyer. Bien, le relatif, il est débile. C'est extraordinaire, ça. Alors, voici cette expression d'Aristote qui est intéressante. Rien, en effet, n'est grand ou petit, beaucoup ou peu, ni d'une manière générale relative, qui ne soit un certain autre être tout en étant beaucoup ou peu, grand ou petit ou relatif. Et ce qui montre bien que le prosti n'est ni une substance, ni un être déterminé, un onti, c'est que seul le prosti n'a ni génération, ni corruption, ni mouvement, alors que la quantité donne lieu à l'augmentation ou à la diminution, la qualité à l'altération, le lieu à la translation, l'ousia à la génération ou corruption absolue. Le relatif ne donne lieu à rien. C'est très très joli ça. Le relatif donne lieu à... aucun mouvement ne se termine au relatif. Aucun mouvement. Le relatif échappe à tout génésis, à tout engendrement. Les Grecs sont très sensibles à ça, la naissance d'une chose. Je ne peux connaître une chose que si j'en vois la naissance. Il n'y a pas de naissance propre au relatif. Alors comment le saisir ? Il vous échappe tout le temps. Parce que c'est ça qui est derrière, hein ? Quand à Platon veut faire comprendre ce que c'est que l'amour, il dit « je vais vous donner un mythe de la naissance de l'amour ». Quand Platon veut faire comprendre ce que c'est que la justice, « je vais vous montrer la naissance de la justice ». Et quand vous voyez la naissance de la justice, vous dites « or quand il s'agit du relatif, montrez-moi la naissance du relatif ». Non. Aucun mouvement ne se termine au relatif. Alors que la quantité donne lieu à augmentation-diminution, la qualité à l'altération, le lieu à la translation, l'ousia à la génération ou corruption absolue, le relatif ne donne lieu à rien. Il apparaît ou disparaît sans entraîner aucune modification intrinsèque de la réalité qui l'affecte. Il suffit que l'autre, son corrélatif, soit modifié. Vous êtes l'ami de quelqu'un. Cet ami meurt. L'amitié disparaît. Et vous n'êtes modifié en rien. Et pourtant, la relation de l'amitié disparaît. que c'est rien du tout, l'amitié. C'est purement subjectif, comme on dit aujourd'hui. C'est purement subjectif. L'ami disparaît, il meurt. L'amitié disparaît. Et vous n'êtes pas changé. C'est pas parce que l'autre meurt que vous êtes changé. L'être du prosti, tout entier, tourné vers un autre, et n'affectant son sujet que par l'intermédiaire d'une autre détermination, est bien à l'antipode de l'être de l'ousia. C'est les deux extrêmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant pour saisir ce que c'est que l'être. Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. Qu'est-ce que c'est que le droit de ce qui est? Qu'est-ce que c'est que ce qui est? De ce qui est, c'est l'ousia. De ce qui est, c'est le prosti. Le prosti existe, l'ousia existe. Ce sont les deux extrêmes de ce qui est. Ce qui est à côté. Deux extrêmes. L'ousia subsiste en elle-même. C'est l'être qui est, qui a sa détermination propre. Le prosti, il est tout relatif à l'autre. Il existe, il est. Il y a l'être. Il y a l'être du prosti. Alors la grande tentation, c'est de dire que le prosti n'existe pas. C'est la grande tentation, certains l'ont dit. Le prosti n'existe pas. Le prosti n'existe que subjectivement. Et donc à partir de là, on peut dire le prosti n'existe que idéalement. Et donc il n'a pas d'existence réelle. Et nous maintenons que le prosti a une existence réelle. Que c'est une des modalités de l'être. Et je crois que ça, c'est très important de comprendre justement de l'être du prosti, tout entier tourné vers un autre, n'affectant son sujet que par l'intermédiaire d'une autre détermination, et bien à l'antipode de l'ousia. Sans doute le prosti, comme les autres accidents, est-il dit de l'ousia, est-il dit de la substance, mais cela ne veut pas dire qu'il l'affecte directement. Cela signifie seulement qu'il dépend de la substance dans son existence même et ne peut se définir en dernier lieu qu'en fonction d'elle. Dans le livre Delta de la philosophie première, Aristote énumère trois grands types de relatifs. C'est quelque chose. Donc, Aristote considère que l'être du prosti est tout entier relatif. L'être du prosti n'a rien d'égocentrisme, si vous voulez. Traduisez ça par un point de vue psychologique. C'est l'éclatement de l'être. On pourrait dire, c'est l'éclatement de l'être, le relatif. C'est l'être tout entier tourné vers l'autre. Tandis que l'ousia, c'est l'être tourné vers soi. Alors, il nous dit ceci, je vais simplement l'énumérer. Il énumère trois grands types de relatifs. Les relatifs selon le nombre, le rapport à l'un ou au nombre, qu'ils traduisent peut être déterminé, le double, l'indéterminé, le multiple. À ces relatifs selon le nombre, Aristote rattache l'égal, le semblable, le même. Puis vous avez les relatifs selon la puissance et l'acte, qui ont trait aux puissances actives et aux puissances passives. Puis vous avez les relatifs du troisième type, ceux qui se disent du mesurable à sa mesure. C'est très intéressant ces trois relatifs. On y reviendra. Mais c'est intéressant que Aristote, dans le livre, donc dans le livre Delta, situe dans trois types de relatifs. Tous ces relatifs sont relatifs par eux-mêmes, sont encore relatifs par eux-mêmes les réalités dont le genre est relatif de cette même manière. Par exemple, la médecine, parce que son genre, la science, est relatif par soi. Aristote souligne encore l'aspect abstrait du prosti, passant ainsi de ce qui est relatif à la relation. Sont encore relatifs selon eux-mêmes ceux qui rendent relatifs ceux qui les possèdent. L'égalité par rapport à l'égal, la similitude par rapport au semblable. Donc le passé, l'abstrait par rapport au concret. C'est toujours intéressant à regarder ça. Alors, il y a un petit intérêt qui est toujours intéressant à faire. Si l'on compare les recherches des catégories et celles des métaphysiques, on constate que dans les catégories, les relatifs sont pris d'une manière générique, plus ou moins propre, et d'une manière accidentelle. La recherche métaphysique procède d'une manière toute différente. Elle considère d'abord les diverses modalités spécifiques des relatifs, puis les relatifs qui ne sont relatives qu'en fonction de tel genre. Donc il y a un regard très différent du legetai, toujours les catégories, c'est l'aspect legetai, et en métaphysique, l'aspect de l'être. Et ce point de vue-là, c'est intéressant de voir ces deux aspects. Alors on va aller très vite maintenant. Il y a encore un aspect qui serait intéressant à voir, c'est chez saint Thomas. Donc je saute, il y en a des quantités, on ne va pas faire une topique complète. Ceux qui veulent s'intéresser peuvent regarder dans donc, le livre Lettres, le second livre, la première partie, sur le point de vue de la topique. Alors, il y aurait une très grande topique à faire chez saint Thomas. Voir ce que saint Thomas emploie du mot relatif. C'est constant. Je ne sais pas s'il emploie plus relatif que substance, mais il emploie au moins les deux constamment. Alors, je vous ai déjà dit, quelqu'un a fait la synthèse de tout ça, vous n'avez qu'à le consulter, ce gros livre de Krempel. Il cite tous les lieux. Très bonne étude, il y en a oublié quelques-uns, forcément, quand on fait ça. Et c'est l'astuce, c'est de les compléter, n'est-ce pas ? Et c'est de montrer les lieux qu'il a oubliés. Mais au fond, il cite tous les textes de saint Thomas sur le relatif. Ça vaut la peine de regarder ça, parce que ça montre que le point de vue de la relation chez saint Thomas est quelque chose d'extrêmement intéressant. En raison de la révélation du mystère de la très sainte Trinité et de la création, la réflexion théologique va avoir recours d'une façon très spéciale à la relation et au relatif. Et va même en approfondir le sens. Je ne dis pas qu'il y a une nouvelle relation du fait même que la très sainte Trinité nous est révélée. Ça, c'était le père Gérard des Lauriers qui disait ça. Il disait qu'à partir du mystère de la très sainte Trinité, vous aviez un nouveau type de relation parce que vous aviez une relation substantielle. Et le seul inconvénient, c'est qu'on ne la connaît pas. Alors, ça devient de la dénomination. Et c'est vrai, je ne connais pas. Je ne connais pas ce que c'est que la relation substantielle du Père à l'égard du Fils. Je l'affirme dans la foi, mais je ne la connais pas. Si je la connaissais, je connaîtrais ce qu'est le Père. Alors pour le Père Guérard, c'est un nouveau type de relation qui a ce privilège merveilleux, voyez, de faire la synthèse entre le relatif et la substance. Et si je fais la synthèse entre le relatif et la substance, j'ai une nouvelle philosophie à partir de là. Et je rejoins peut-être l'hégélianisme. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ça met peut-être le doigt sur l'hégélianisme de joindre le relatif et la substance dans l'unité d'être. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est intéressant à voir. Bon. Le traité de la très sainte Trinité, je ne vais pas le faire avec vous, mais c'est intéressant quand même d'en dire deux mots pour montrer comment le théologien se sert de l'être le plus débile pour exprimer sa plus grande. Ça, c'est astucieux. Le théologien se sert de l'être le plus débile pour exprimer ce qu'il y a de plus grand. La révélation nous révèle qu'il y a dans la simplicité absolue dans la simplicité absolue de l'être premier, de l'être divin. Dans la simplicité, il y a trois personnes. Ça, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Ces trois personnes ne divisent pas Dieu, mais impliquent une distinction réelle, sans division. L'unité de Dieu demeure absolue. C'est une unité substantielle. Cette unité substantielle de Dieu fait que Dieu, dans sa substance, est un. Il y a une seule réalité substantielle qui est Dieu. Ça, c'est la grande affirmation du monothéisme. Les chrétiens sont monothéistes. Vous voyez, dans quelle façon ? Ils disent qu'il n'y a qu'une seule substantielle, bien affirmée. Et c'est ce Dieu dans l'unité substantielle qui est le Créateur. Mais la révélation du Christ nous révèle, par le Christ, nous savons qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, et qu'il y a un Esprit Saint. Faisons attention, quand je dis Père et Fils, je ne veux pas dire qu'il y a un dégradé. Croire que c'est un dégradé. Mettez-vous une ligne, si vous avez une ligne, pour éviter le dégradé. Un Père qui est à l'origine du Fils. Je dis bien qui est à l'origine, qui est source. Qui est arché. Arché. L'évangile de Saint Jean. Énarché. Le prologue de Saint Jean. Dans la source. Dans le principe. Dans le principe. Était le Verbe, le Logos. Et le Logos est Dieu, donc dans l'unité. Il y a une distinction et il y a l'unité. Comment expliquer cela ? Il faut bien, le théologien doit essayer, non pas d'expliquer le mystère, mais de montrer et de manifester le mystère. Il faut montrer comment il peut y avoir dans une unité absolue substantielle une distinction de personnes. Vous voyez tout le problème. La personne, normalement la personne implique la substance. Une personne, c'est une substance. Unité de substance et trois substances. Ça, vous y perdez votre latin. Et vous le perdez d'autant plus vite qu'il n'est pas fort. L'unité dans les trois personnes, et quant au grec, c'est encore plus rapide. Alors, l'unité dans les trois personnes. Vous voyez le mystère. Il faut bien se mettre en face du mystère et montrer que le mystère n'est pas absurde. C'est le rôle du théologien. Face à toutes les attaques qui disent que c'est absurde d'affirmer 3 en 1, vous me direz non. C'est pas absurde. C'est pas impossible. Qu'il faut découvrir comment, le comment, je n'exprime pas ce qu'est Dieu, mais le comment des 3 dans l'un. Alors, on va se servir de l'être le plus débile. La relation. Pour exprimer comment, dans l'unité, il peut y avoir une distinction. Une fois qu'on l'a découvert, c'est facile, mais il fallait le découvrir. C'est ça le parc commode, hein. C'est ça qu'il fallait découvrir. On voit très bien tous les tâtonnements qui existent. Alors, on va dire 2 mots là-dessus, parce que c'est quand même très important, et c'est beau ça. Ça montre de l'utilisation que fait le théologien de ce que c'est la relation. La révélation parle toujours de Prochelit. Le Fils procède du Père. C'est-à-dire, on va parler des processions. Des processions divines. parler. Pendant le concile, vous savez bien, il y avait la procession merveilleuse de toutes les mitres. Alors on raconte qu'un évêque occidental était à côté d'un évêque oriental, et lui regardait cette procession admirable. Match a montré ces images merveilleuses de toutes les mitres ambulantes, n'est-ce pas, dans une procession. Alors, l'autre s'en plongeait dans sa prière. Alors, l'autre lui donne un petit coup de coude. Regardez cette procession admirable. Alors, l'autre dit, je contemple une autre procession. C'est merveilleux, je contemple une autre procession. La procession du Fils à l'intérieur du mystère de la très sainte Trinité. Cette procession éternelle, c'est beau. Premier terme de procession, il ne faut pas l'oublier. Toute procession est trinitaire. Il procède, donc c'est le Fils qui procède du Père. Qu'est-ce que ça veut dire procéder du Père? Ça veut dire venir du Père. Le Père est source du Fils. Et tout ce qui est le Fils procède du Père, vient du Fils. Je veux dire, tout ce qui est le Fils procède du Père, vient du Père. Le Père est source, il est arché. Et c'est dans cette source que le Fils se distingue du Père. Et donc la procession est le fondement de la distinction du Père et du Fils. Et pour essayer d'exprimer cette distinction, on va employer la relation. Pourquoi ? Parce que seule la relation n'implique aucune perfection. C'est l'être le plus débile qui distingue et qui n'implique aucune perfection. Et c'est pour ça que je peux dire que le Père est tout entier relatif au Fils et que le Fils est tout entier relatif au Père, sans dire que le Père est plus que le Fils. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le symbole de Saint Athanase. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Et le Fils n'est pas plus grand que le Père. Ils sont un. Ils sont distincts. Il faut donc essayer d'exprimer cette distinction et cette unité. Et pour exprimer cette distinction dans l'unité, nous n'avons qu'un seul terme. La relation n'implique aucune perfection qu'une imperfection. Et donc je peux dire que le Père, dans tout ce qu'il est comme Père, est distinct du Fils. Et le Fils, dans tout ce qu'il est comme Fils, est distinct du Père. Et cependant, ils sont un. Ils sont un dans leur propre nature, dans leur propre réalité. Et ils sont totalement distincts l'un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que ce qui fait le Père comme Père, c'est d'être distinct du Fils, tout en étant la source. Et donc c'est bien la relation subsistante qui distingue le Père du Fils. Alors, précisons, saint Thomas va dire dans la relation deux choses à distinguer, l'âme et le in. Ce qu'Aristote ne faisait pas, mais c'était impliqué dans la pensée d'Aristote. Le âme, il est tout entier tourné vers le âme. Le âme, c'est le ver. Et le in, c'est l'inhérence. C'est l'enracinement dans le sujet. Et le âme, c'était entièrement relatif à l'autre, ou corrélatif à l'autre. Donc on va faire cette distinction, c'est assez subtil, mais c'est très intéressant. On va faire cette distinction dans la relation, de distinguer le âme du in. Le âme, c'est l'aspect formel de la relation. La relation, c'est d'être tout entier pros. Dans le prologue de Saint Jean, il est dit que le verbe est pros. Il est tout entier tourné vers le Père. Alors on traduit « auprès du Père ». C'est très mauvais. Il est vers le Père. C'est ça que ça veut dire. Je sais très bien que c'est intraduisible. Mais « prosévère », « vers », « tourner vers ». Il est tout entier « tourné vers ». Ça, c'est le « ad ». Tout entier relatif. Tout entier « tourné vers ». Ça, c'est le formel de la relation. L'inhérence de la relation. C'est par son fondement, il inhère dans un sujet. Quand il s'agit du mystère de la très sainte Trinité, on va donc saisir le Had dans toute sa pureté. On va dire qu'il n'y a pas d'inhérence parce qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et donc, il n'y a pas d'inhérence. Tout ce qui est en Dieu est Dieu. Et donc, tout ce qui est en Dieu n'est pas un accident qui vient s'ajouter. Tout ce qui est en Dieu est substantiellement Dieu. Et donc, il n'y a pas d'inhérence au sens absolu. C'est le Had qui subsiste. Et le Had qui subsiste, c'est justement ce qui constitue le Père. La paternité, c'est un Had subsistant. Et ça permet d'avoir jusqu'au bout une certaine précision de la distinction d'une personne à l'égard d'une autre. Et en même temps, de permettre de ne rien ajouter, parce qu'autrement, on détruirait la simplicité absolue de Dieu. Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.